cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier avec vous, comme d'habitude, pour explorer le 9e art sous différentes facettes. Et cette semaine, deux approches très, très différentes. En deuxième moitié d'émission, on va retrouver avec nous Stéphane Gravel. Ça faisait un petit bout de temps qu'on ne lui avait pas parlé. Et il sera de retour donc pour nous accompagner au fil de la saison 2021-2022 autour de son mois en BD, donc des bilans de lecture. Et pour commencer ce mois-ci, je pense qu'il y a une lecture en fait qui l'a vraiment animé et qui l'a amené à même questionner son rapport avec sa passion de la bande dessinée. Alors, on va parler vraiment d'habitude de lecture, on va parler d'expérience de lecture et de ce qu'on recherche au bout du compte à travers la lecture et à travers surtout les questionnements que cette lecture a suscité chez Stéphane Gravel. Donc ça, ce sera, je le rappelle, en deuxième moitié d'émission. Et pour ce qui est de la première moitié, on va aller vers un album qui s'appelle donc Ma vie en low-fi. C'est Simon Labelle donc, qui nous avait offert d'autres bandes dessinées dans le passé et qui, pour son troisième opus, a décidé vraiment de s'intéresser à son expérience personnelle, puisque au fil du temps, il a développé une surdité, donc certains éléments sonores qu'il n'arrive plus à percevoir, d'autres plus aussi bien qu'avant. Et comment on vit avec ça? Comment on évolue dans ce contexte-là? Alors, c'est un peu ce qu'il a choisi d'explorer au fil de son album, mais de l'explorer vraiment à travers le prisme de l'anecdote, mais d'une anecdote qui nous permet à nous, lecteurs, lectrices, de comprendre, de saisir, de partager peut-être certaines préoccupations, certaines réalités, certains enjeux, certains défis. Et on avait envie justement de discuter avec lui autour de ce qui l'a amené vers ces choix-là, de la manière par laquelle il a approché la thématique et la sélection des thèmes. Bref, un survol de son travail donc sur Ma vie en lo-fi. Et ça, c'est ce qu'on vous propose dans quelques instants ici à La vie en BD. Alors, dans le cadre de La vie en BD, on plonge maintenant dans l'album de Simon Labelle, Ma vie en lo-fi, un album qui nous est arrivé tout récemment du côté de Mécanique Générale et un album qui s'intéresse à travers la BD aux enjeux associés à l'audition, à la surdité. Et l'auteur est avec nous pour en jaser. Simon Labelle, bonjour.
Bonjour.
Alors, d'entrée de jeu, quand on m'a présenté l'idée d'une bande dessinée sur la surdité, je me suis dit... vous vous êtes donné un bon défi, donc de réussir à exprimer visuellement la surdité.
Oui, mais en réalité, ce n'est pas si compliqué que ça. Peut-être que ça démontre aussi qu'il y a plus à la bande dessinée que juste des beaux dessins, et puis qu'il y a plus à la surdité que juste un problème sonore. Alors finalement, la manière dont... dont on peut représenter ça, c'est surtout les interactions humaines, au fond. Et puis ça, c'est quelque chose qui se représente super bien en bande dessinée. C'est des personnages qui interagissent ensemble. Il y a aussi des réflexions que je me fais, des réflexions personnelles. Là, à ce moment-là, on est plus dans un mood. Mais ça aussi, ça s'exprime bien en dessin, en bande dessinée. Alors, on est habitué de voir ça en bande dessinée. Donc, ce n'était pas réellement un si gros défi.
Oui, en fait, vous le dites bien, je pense qu'à travers l'interaction, c'est là qu'on comprend la nature de la bête, comment ça vient affecter, changer, transformer la manière d'interagir. Et on va en parler beaucoup parce que évidemment, il y a beaucoup d'éléments, il y a beaucoup de l'album de Mavier Lofer qui passe justement par l'anecdote, par la réflexion et par le relationnel au bout du compte.
Oui, absolument. Parce que ce qui est touché... En premier lieu, c'est la communication avec les gens. Moi, ma surdité touche surtout les hautes fréquences. Donc, il y a certains sons très aigus que j'entends plus ou que j'entends moins bien, comme certains chants d'oiseaux ou bien un chant de cigale ou des choses comme ça. J'entends plus les chants de cigale. Je trouve ça bien triste parce que je trouvais ça très agréable l'été d'entendre le chant de la cigale. Mais ça, c'est fini. Mais comme tel, si j'entends passer une motocyclette sur la rue, c'est des basses fréquences, je l'entends exactement de la même manière que n'importe qui d'autre. J'habite dans Villeray, à Montréal. Il y a des avions qui passent au-dessus de nos têtes. Ça fait du bruit, là. Je l'entends exactement comme les autres. Dans une conversation, j'entends quand les gens me parlent. J'entends ce qu'ils me disent. Mais le problème avec la perte auditive dans les hautes fréquences, c'est qu'on distingue moins bien la différence entre certains sons de consonnes ou de voyelles. Alors, des fois, il y a des mots qui deviennent plus difficiles à comprendre. On a l'impression que les gens prononcent moins bien. Et puis, à un moment donné, ben, on perd le sens de la phrase. Puis, on est obligé de demander de répéter. Alors là, à tout coup, les gens disent: «Ah, oh, c'est vrai, j'avais oublié, il est malentendant.» Et les gens me répondent plus fort. Mais en réalité, ce n'est pas la force, ce n'est pas le volume sonore, c'est juste, il y a un mot qui m'a échappé, ou il y a peut-être deux mots qui m'ont échappé. Il faut juste répéter, peut-être en prononçant un petit peu mieux, mais c'est pas ce à quoi les gens s'attendent souvent, là.
Non, mais en fait, c'est que des fois, à travers ce type d'interaction-là, on prend conscience aussi que de la méconnaissance ou du manque de connaissances qu'on a par rapport justement à la surdité, où on s'en fait une idée, mais dans le fond, réellement, concrètement, on ne sait pas comment cette réalité-là s'exprime et ça amène des agirs des fois un peu maladroits qui, justement, sont des bons moteurs d'humour. Et qui viennent aussi, j'imagine, appuyer l'intérêt d'une bande dessinée qui va s'intéresser à ça pour tenter de nous amener un peu dans votre perception de notre réalité.
Ben, c'est ça, c'était vraiment le but, c'était de faire rentrer les gens à l'intérieur de ma tête, là, entre mes deux oreilles, pour leur faire partager l'expérience. Ce qui fait que ça devient intéressant, je pense, de comprendre des choses ou de voir comment ça se passe. C'est souvent des choses qu'on n'imaginerait pas. Moi, je suis malentendant depuis seulement quelques années, ben, peut-être 10 ou 12 ans. Et puis, j'ai découvert à mesure moi-même des choses dont je ne me doutais pas. Alors, c'est intéressant de raconter ça. Ça fait découvrir des nouveaux aspects, des choses qu'on ne connaît pas. C'est comme, je ne sais pas, par exemple, le fait que qui croirait qu'un sourd peut être dérangé par des bruits? Des bruits trop forts. Et puis pourtant, dans mon cas, je suis devenu quasiment allergique aux gros bruits trop forts parce que on dirait que je suis devenu très protecteur de mes oreilles. J'essaie de les ménager. Je ne voudrais pas que la surdité devienne plus sévère. Alors j'essaie d'en prendre soin. Alors, mais. Comme je disais tout à l'heure, j'entends les bruits autour de moi, j'entends tout ça. Et puis, mais quand on pense à une personne sourde ou une personne malentendante, on a l'impression que la personne n'entend rien. Elle n'entend rien ou très peu, puis elle lit sur les lèvres. Alors moi, je suis très, très, très mauvais pour lire sur les lèvres.
Et à travers ça aussi, vous nous amenez dans différentes réflexions. Et je pense en lien avec cette expérience-là, entre autres, ce que je trouvais fascinant, c'était justement la compréhension des conversations, des suivis, où vous nous dites, ben, des fois on manque des bouts, mais on en a assez pour extrapoler, pour saisir l'esprit. Et on comprend qu'entendre et comprendre, dans le fond, des fois, c'est deux mots, c'est deux réalités qui sont pas nécessairement. L'une imbriquée dans l'autre. On peut comprendre sans entendre, on peut entendre sans comprendre.
Oui, exactement. Puis ça, c'est un autre aspect dont je ne me doutais pas nécessairement, c'est que nos oreilles vont capter des sons de façon comme crue, là. Et puis ensuite, c'est le cerveau qui va décoder qui va décoder tout ça. Et puis notre cerveau, ben, et c'est lui qui met des sens sur les sons qui sont perçus, puis qui va compléter. Comme une espèce de petit studio de son intérieur, là, il va compléter puis interpréter les choses qu'il a entendues. Et puis nous, on peut avoir l'impression d'avoir entendu une chose, mais c'est peut-être autre chose qui a été dit. Mais on a vraiment l'impression d'avoir compris ça parce que notre cerveau l'a interprété comme ça. Ou alors, c'est simplement que notre cerveau n'est pas capable de décider. Puis on a un mot. Ou un bout de phrase qu'on n'est pas capable de savoir ce que c'était vraiment. Là, on est vraiment obligé de faire répéter. Alors, donc, il y a des espèces de malentendus comme ça qui surviennent. Et puis, ben, j'en donne toutes sortes d'exemples là, dans mon livre.
Oui, puis ça
Évidemment.
pousse des fois jusqu'à même le bruit souvenir ou le souvenir de l'ambiance ou l'oiseau. Est-ce que je me souviens, par exemple, je pense que dans une planche, je vous évoquais ça, je me promène en forêt, j'imagine entendre des oiseaux, mais est-ce qu'il y en a réellement finalement? Ou est-ce que je me souviens qu'ici, je devrais en entendre? Ou toute cette
Oui, en
dimension-là aussi.
réalité, oui, cette dimension-là, en réalité, c'est lié dans cette page de bande dessinée-là, c'est lié à mon acouphène. Parce que j'ai un acouphène qui est un petit bruit comme un petit bruit continu, un son continu, comme une tonalité. Puis c'est pas très dérangeant, c'est subtil, mais c'est toujours là. Je l'oublie à la longue, parce que, bon, j'en ai rien à faire, c'est là, tout le temps. Et puis, sauf que il y a quand même une certaine hauteur, ce son-là, une certaine fréquence. Et puis, il m'est arrivé des fois qu'il faisait des espèces de drôles de petites variations. Et puis là, ben, j'étais dehors, j'avais un peu l'impression d'entendre des oiseaux, mais est-ce que c'est le chant des oiseaux que j'entendais à peu près à la même hauteur que mon acouphène? Puis je n'étais pas capable de déterminer est-ce que j'entends vraiment des sons d'oiseaux à travers, ou est-ce que c'est juste mon acouphène, ou est-ce que c'est moi qui m'imagine des sons d'oiseaux, est-ce que les oiseaux sont là ou pas, et puis j'étais incapable de le déterminer. Alors, c'est aussi une espèce d'effet secondaire là, de tout ça, que je pense qui est intéressant à raconter. Les gens ne se doutent pas que ce genre de choses-là peut arriver. Je ne me doutais pas moi-même, peut-être il y a 10 ans, là.
Et justement, je pense qu'on vient donner quelques exemples de la manière par laquelle, dans Ma vie en lo-fi, vous abordez un peu cette réalité-là. On parlait du relationnel, mais je pense qu'il faut parler aussi d'anecdotes. En fait, vous êtes un peu un côté conteur, si on peut dire. Et il y a un côté aussi, bon, d'aller, en fait, je dirais une structure un peu typique, bon, d'une série plus à gag, entre guillemets, sans nécessairement dire que ça punch à chaque fois. Je pense pas que c'est l'objectif non plus, mais d'aller avec une planche, synthétiser quelque chose, synthétiser une réalité, nous la partager et nous introduire dans votre quotidien à travers cette anecdotique-là. Et à travers cette anecdotique-là, bien, rentrer en relation avec vous, puis avec la réalité telle que vous l'entendez, dans le fond.
Oui, c'est certain que c'est. J'essaie de trouver une façon très simple et très condensée de raconter chaque anecdote. J'essaie de la raconter d'une façon assez punchée aussi. Il y a un côté conteur là-dedans. Là. Mais toutes les anecdotes sont à peu près authentiques, transformées un peu par le conteur, là. Mais ça représente vraiment des choses vécues.
Et est-ce qu'on parle justement, parce que dans le fond, de la façon dont on aborde, est-ce que c'est beaucoup justement les anecdotes et à un moment donné où on finit par les noter, par les garder en mémoire parce qu'on trouve que ça se raconte très bien ou à l'inverse, on se dit, bien, j'ai envie de parler de cette réalité-là que je vis. Et éventuellement qu'on finit par réfléchir à c'est quoi les aspects, les éléments qu'on veut mettre en lien et que c'est là que la jonction se fait avec les anecdotes. C'est comment on aborde un peu le travail avec un sujet comme ça?
À partir des anecdotes, à partir des choses vécues. En même temps, j'essaie de voir. C'est le fun d'essayer de faire le tour de la question, puis de parler de tous les aspects. Mais je pars pas dès le départ avec bon, là, il faut que je parle de tel aspect, tel aspect, tel aspect. Comment je vais le raconter? C'est pas comme ça. Je pense que il faut que ce soit au départ, une anecdote intéressante à raconter, ou si c'est un concept, faut qu'il y ait une idée, le fun, pour transmettre le concept. J'ai abordé cette bande dessinée-là plus comme un témoignage que dans une espèce de but pédagogique. C'est pas une espèce de livre pour enseigner aux gens, pour dire aux gens de quoi il s'agit, de quoi il en retourne. Et puis, j'ai pas fait de grandes recherches pour déterminer tous les différents types de surdité. Non, je parle uniquement de mon cas à moi, et puis je raconte des choses qui me sont arrivées. pour les partager avec les gens. Maintenant, forcément, bon, les gens vont apprendre des choses, comme moi j'ai appris des choses à travers ça, puis dès qu'on apprend, il y a un côté pédagogique, mais c'était pas, ma démarche n'était pas au départ pédagogique, c'est plus du témoignage.
Et c'est du témoignage, je trouve, en fait, du témoignage souriant, d'une certaine façon, parce qu'on a, vous auriez pu vous apitoyer aussi, vous auriez pu nous amener dans les émotions, parce que ça, j'imagine qu'il y a pas, il y a pas, il y a dû avoir des moments difficiles aussi en cours de route, évidemment, mais on choisit de ne pas mettre l'emphase sur ces instants-là ou sur ces émotions-là, sans nécessairement les esquisser et les mettre de côté non plus, mais je trouve qu'il y a un certain sourire qui en ressort et qui nous amène soit à en rire avec vous, soit à en être découragé avec vous, mais qui crée comme un esprit de convivialité, je trouve, ensemble à la lecture de ça.
Oui, je pense que l'humour aide à aborder toutes sortes de sujets. Ça donne, ça dédramatise aussi. Le côté apitoiement sur moi-même, sur soi-même, c'est quelque chose qui, personnellement, lire un livre d'un auteur qui s'efforce de faire pitié le plus possible, ça me turn off. Là. C'est quelque chose qui que j'aime moins là-dedans. Alors, je n'avais pas envie de faire ça pour ce livre-là, c'est simplement aussi ma façon de voir. Ceci étant dit, l'humour peut être multiple. Il y a toutes sortes, je pense qu'il y a toutes sortes de nuances d'humour dans ce livre-là. Il n'y a pas juste de l'humour aussi. Il y a des pages qui sont touchantes. Il y a de l'humour qui peut être un peu grinçant. Il y a une espèce de je sais pas. Je pense que j'aborde quand même des choses. J'ai l'impression que quand on commence à lire le livre, ça tout a l'air tout léger, tout rigolo, et puis que peu à peu, à un moment donné, on se rend compte qu'on est rendu dans quelque chose de grave, puis on ne s'en est pas rendu compte.
Oui, en fait, puis qu'on est touché différemment par ce qui est amené, ou que vous nous avez amené par ce prisme-là vers, dans le fond, une certaine intimité. Je trouve, dans le fond, on rentre avec le sourire, puis après ça, on reste. Puis l'ambiance est installée, puis on arrive à des moments qui sont très poétiques aussi. Je pense à la double planche où on vous voit faire un parallèle entre vous et votre mère qui avait aussi des problèmes d'audition. Et vous disiez, ben, tu sais, pendant des années, je me demandais, je la regardais faire un sourire un peu confus, un peu, bon, quand elle perdait le fil de la conversation. Puis ben, après des années, je me rends compte que maintenant, tu sais, j'ai pris ce rôle-là dans le cadre de la conversation. Je l'amène beaucoup moins bien, évidemment, verbalement que vous l'amenez par l'écrit, mais ça montre que tous les éléments, justement, je pense que vous avez mis l'avance, dans le sens, ça s'imbrique, ça crée un tout, puis ça nous amène dans une variété d'émotions, mais toujours avec une certaine sérénité, à la limite. Je cherche les mots pour le qualifier, parce qu'il y a une belle ambiance qui ressort de cet album-là, puis je pense que c'est ce que je veux mettre de l'avant, puis... J'imagine qu'à un moment donné, de votre côté, c'est instinctivement que tout ça vient à se placer puis que les épisodes s'imbriquent les uns dans les autres, dans le fond.
Oui, tout à fait. Je traite chaque sujet par rapport à lui-même, au fond. Alors, si c'est un sujet un peu plus grave, je vais être un peu plus grave. Si c'est un sujet qui est un malentendu, qui donne un résultat loufoque, bon, ben, ça va être juste comique. Mais comme pour la page dont vous parlez, ça reste amusant, mais pas tant que ça. C'est comme un rire jaune, là. Mm-hmm. Il y a quelque chose dans l'humour aussi ce qu'il y a dans l'humour, il y a de l'ironie dans l'humour aussi. Puis l'ironie, à un moment donné, c'est quand on est soi-même victime d'une situation ironique, c'est pas le fun. Et puis je pense qu'il y a ce malaise-là qui ressort aussi à travers certaines pages.
Ouais. Est-ce que c'est... j'imagine que côté rédaction, pour vous de vous lancer dans un sujet comme celui-là, il y a un côté, j'imagine, thérapeutique, une façon aussi de s'approprier ce qui vous est arrivé, dans le fond.
Tout à fait. Je pense que avoir réalisé cet album-là m'a aidé à apprivoiser cette condition-là. Je pense que c'est... Oui.
C'est un projet qui s'est imposé de lui-même ou à un moment donné que vous vous êtes dit, ben, OK, non, là, j'ai envie de me lancer là-dedans. Comment vous en êtes venu? Puisque ce n'est pas votre première BD, évidemment. Vous en avez deux autres derrière vous, entre autres Le Pouvoir et l'Ivresse qui date d'il n'y a pas très longtemps. Donc, qu'est-ce qui a fait que vous avez dit, ben, OK, là, j'ai envie de me mettre de l'avant, d'aborder ça par le truchement justement de ma pratique?
Sincèrement, c'est venu d'une façon très naturelle. Je ne me rappelle même pas exactement quel a été le déclic de départ. Je faisais déjà, que je publiais sur Facebook, quelques petites bandes dessinées dans le même style, qui reflétaient des moments cocasses du quotidien, de mon quotidien. Alors, et puis, mais ils ne sont pas très nombreuses, mais j'en avais fait. Quelques-unes. Et puis là, mais je crois que simplement le sujet de ce que je vivais avec la surdité était suffisamment riche en anecdotes pour commencer à le raconter. Et puis dès que j'ai commencé, il m'est venu un paquet d'idées là, pour raconter toutes sortes de choses.
Donc, à l'inverse, il a fallu synthétiser un peu, choisir les meilleures idées, celles qui fonctionnaient le plus, un peu d'essai-erreur aussi pour trouver le ton, ou encore là, à un moment donné, on est tellement immergé dans son sujet que les choses viennent, parce que je sens qu'il y a beaucoup d'instinctif là-dedans, tu sais,
Oui,
aussi.
ça venait pas mal tout seul. Je prenais quand même en note toutes sortes d'idées de choses dont je pourrais parler. Et puis, il y a certaines choses que je n'arrivais pas à développer d'une façon intéressante ou qui finissaient par être juste une anecdote trop banale. J'essayais de garder seulement ce qui était intéressant. Il y a une planche que j'avais faite au départ que j'ai redessinée complètement différemment, celle où je lis sur les lèvres, où j'essaye de lire sur les lèvres. Et puis, au départ, je l'avais raconté, je ne savais pas de quelle manière le raconter. Je l'ai raconté dans une scène totalement fictive, dans le métro, avec des personnages totalement inventés, une scène totalement inventée. Puis, je ne l'aimais pas. Je trouvais que ça ressemblait pas, c'était pas du vécu, ça ressemblait pas du tout à quelque chose que moi j'avais vécu. Et puis bon, j'imagine que n'importe qui aurait lu ça n'aurait pas pu savoir que c'était pas authentique, mais pour moi, ça fonctionnait pas. Je l'ai redessiné basé sur une anecdote vécue. Puis je trouve que c'est une de mes préférées maintenant du livre. Et puis je trouve qu'elle fonctionne beaucoup mieux.
Et visuellement, on choisit d'y aller avec une certaine sobriété, j'ai l'impression. En fait, il n'y a pas de. C'est des vignettes qui sont sans case. On y va avec un dessin qui est sobre, qui est souple, qui réalise des tons de gris. Donc, pour moi, ça tout pointait un peu vers l'accent sur le côté relationnel, le côté humain, dans le fond.
Oui, absolument. Puis il y a quelque chose de chaleureux là-dedans, quelque chose qui ça va bien avec une BD témoignage. Il y a un autre aspect technique aussi, c'est que je travaille à l'ordinateur et puis j'ai changé de logiciel de dessin. Alors en changeant d'application, ben j'ai maintenant une application qui donne toutes sortes d'autres outils. Et puis, donc, ces jolis crayons hein, qui permettent de faire des petits crayonnés comme au crayon de bois, là, comme au crayon gras. Et puis, que j'adore, parce que j'ai toujours aimé dessiner au crayon. Et puis, j'ai toujours aimé mieux ça que quand je dessinais sur papier, je dessinais au crayon, puis ensuite, il fallait encrer. Et puis, on pouvait faire un beau crayonné très vivant. Là, on arrivait avec l'encre de Chine, on avait peur de se tromper, et puis ça tuait toute l'ambiance. Alors, je retrouve ça avec ce logiciel-là. Alors, je trouvais ça le fun aussi de l'utiliser pour ça. Ça, c'est le côté technique que personne connaît, mais c'est une réalité. Mes deux autres livres sont à l'ordi, ont un look beaucoup plus Ankh de Chine. Mais c'est quand même plus intéressant de le faire à l'ordi, à mon avis, que sur papier, parce que au moins à l'ordi, on peut faire notre esquisse. Si elle est belle, on la garde. Puis on n'est pas obligé de l'ancrer ensuite en ayant peur de perdre, de pas faire le trait exactement au bon endroit.
Oui, le contrôle Z est assez
la
salvateur.
beauté. Et puis là, on met le coude dans une flaque d'encre qui n'est pas séchée encore. On tâche notre plante. C'est l'enfer. À l'ordi, on n'a pas ça.
Et à travers ça, je mentionnais l'entrée de jeu, puis effectivement, comme vous le disiez, c'est beaucoup la société rendue par le dialogue, par les interactions, mais en supplément de ça, il y a aussi des petits détours, soit narratifs ou visuels aussi, que vous prenez, par exemple, de faire parler des gens dans d'autres langues pour essayer de nous faire comprendre dans telles circonstances, c'est quoi les sons que vous entendiez, de flouter le texte à un autre moment, de faire une liste de sélection aussi. Donc, il y a plein de façons, on dirait, par lesquelles vous nous interpellez pour nous rappeler un peu, pour nous remettre un peu en tête le contexte sonore dans lequel vous évoluez, dans le fond.
Oui, ben, comme je disais aussi, c'est que chaque planche est abordée par rapport à ce qu'elle raconte. Alors, mm-hmm. Donc, l'idée du choix multiple, c'est ça le concept. Donc, à ce moment-là, l'idéal, c'est de le faire de façon vraiment, carrément, visuellement, comme une seule case et un choix multiple. Donc,
et puis ça amène voilà. Une belle variété, j'ai l'impression, justement, d'aller chercher comme ça chaque séquence, qu'elle soit humoristique ou qu'elle soit plus intime, amène en fait son ton, amène son apport, ce qui fait qu'au final, j'ai l'impression de l'avoir abordé un peu comme vous l'avez fait, ça amène un objet qui est très varié aussi, je pense, en termes de... à l'intérieur du spectre émotionnel, du spectre humoristique et le reste, mais il y a une belle variété dans le rendu, dans le fond, je trouve, aussi à l'intérieur de tout ça.
Ah ben, en tout cas, je suis content de l'entendre. C'est un peu aussi quelque chose que j'ai aimé faire, c'est de faire différentes formes d'humour, différentes formes de pas d'humour. Donc, quelque chose de plus sérieux. Il y a toutes sortes de variations là-dedans, des variations dans la mise en scène, puis dans tous les sujets abordés. Alors, on ne sait jamais, une fois qu'on finit une page, de quoi la prochaine page va parler ou comment on va aborder le sujet. Alors, je pense que c'était un peu mon but.
Oui, puis en fait, j'imagine que le comment devient aussi un peu le moment clé pour qui va servir un peu de déclic, ou des fois l'anecdote impose naturellement aussi le comment. D'autres fois, un peu comme vous parliez avec le métro ou avec les éléments comme ça, ça devient un peu plus tatillon, un peu plus difficile à cerner exactement.
Oui, ben c'est puis à la fin, il faut toutes les mettre dans le bon ordre, ces pages-là, parce que je ne les ai pas faites exactement dans l'ordre qu'on les voit dans le livre. Alors, il faut trouver la bonne séquence pour qui va où il n'y aura pas un creux à un moment donné où on tourne des pages puis on s'emmerde, non? Et puis, il faut que tout soit bien équilibré pour que qu'on se fait amener, on se fait prendre par la main, puis on se fait amener en quelque part, puis whoop, on arrive ailleurs. Et puis, c'est le côté intéressant aussi de la chose. C'est intéressant aussi parce que c'est différent. C'est comme un peu l'inverse de faire une histoire de fiction. Dans une histoire de fiction, on crée l'histoire au départ, puis à ce moment-là, bien, on suit cette trame-là. Mais quand on a un paquet de pages différentes, on essaye de les mettre en ordre d'une façon qui va créer une trame intéressante. Alors, mais tout est déjà fait. Il faut trouver la meilleure trame.
Et cette meilleure trame-là que vous avez trouvée, le lecteur, la lectrice la retrouve dans Ma vie en lo-fi. Je le rappelle, un album de Simon Labelle qui vient d'arriver du côté de Mécanique Générale. Simon Labelle, merci beaucoup.
Merci beaucoup, Raymond.
Toujours à l'écoute de La vie en BD et tranquillement, mais il y a des collaborateurs qui réapparaissent, qui se réintègrent à l'équipe de l'émission. Et c'est le cas cette semaine, puisqu'on a le plaisir de retrouver Stéphane Gravel. Salut!
Allô, 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 allô.
Alors Stéphane, de retour avec un peu le même concept d'ailleurs que l'an dernier, donc on vise des passages mensuels, donc c'est un mois en BD que tu nous proposes à nouveau pour la saison 2021-2022.
Et j'ai passé un été, parce que c'est là qu'on peut dire que c'est l'été en BD, j'ai passé un été assez particulier en BD parce que j'ai pas, en toute honnêteté, j'ai pas lu beaucoup de BD. J'ai pas eu un été aussi BD que je pensais avoir, parce qu'habituellement, mes étés sont très BD. Bon, OK, j'avoue quelques faiblesses et avoir pris un peu de retard dans les multiples Batman que j'ai dû lire parce que ça s'empile et parce que ça sort à une vitesse folle. Et je tiens à le répéter, Urban Comics font un travail exceptionnel pour les traductions françaises des Batman. Là, je suis en train de me rendre compte que je relis des trucs que j'ai lus à l'époque en anglais il y a quelques années. Mais là, tranquillement, ils sont en train de se rattraper. Mais c'est une parenthèse, Raymond. Mais j'ai lu une BD que je me suis demandé si ça n'allait pas être la dernière BD que j'allais lire.
Posé quand
Cette
même.
BD-là, c'est Jour de sable. Je ne sais pas si tu l'as lu, Jour de sable de Aimé de Young. C'est une BD qui raconte l'histoire des Américains. C'est ce qu'on appelle le Dust Bowl aux États-Unis, pendant la crise économique des années 20. Il y a eu une sécheresse énorme dans une région des États-Unis où tout était envahi par la poussière, par le sable. Il n'y avait plus rien à faire. L'agriculture était impossible de faire de l'agriculture, plus possible de rien faire. Les gens étant installés là et étant pauvres, n'étaient pas capables de déménager de cette région de l'Oklahoma et puis étaient pris pour rester là. Un jeune homme qui commence sa vie professionnelle, John Clark est un photographe de presse, commence comme étant un photographe de presse et est envoyé là-bas pour faire des photographies. Et là, ça fait une histoire qui est extrêmement touchante, extrêmement intelligente, une histoire sensible au niveau de la vie humaine, au niveau des degrés de difficulté que certaines personnes peuvent vivre. Et là, à quelque part, l'Oklahoma est confiné par la poussière, est confiné par un minuscule grain de sable qui vient briser l'engrenage de l'agriculture. Et puis lui arrive avec la volonté de faire un travail, et faire un travail qui est celui du photographe. On est quand même dans les années 40, là, à la suite de la dépression. Et puis, la photographie, pour lui, à l'époque, est un travail. Il met en scène ses photos, il déplace des objets pour pouvoir créer plus de sentiments. Il va prendre un enfant. En disant qu'il est orphelin, mais qu'il n'est pas nécessairement orphelin. Mais il n'y a pas encore cette option, cette pas option, mais cette réflexion d'éthique là, sur le sens de la photographie et la réalité de la photo qu'il prend. Sa photo est là pour communiquer quelque chose et il veut communiquer, donc il va faire ce qu'il faut pour communiquer. En
Donc, c'est
espérant
bien inséré dans le fond, dans le contexte de l'évolution du photojournalisme, dans le fond, du coup.
Absolument, absolument. Et lui, il est jeune. Son père était photographe aussi. Et comme aujourd'hui, dans plusieurs places, on réfléchit sur la façon dont on fait notre travail et on se demande si on peut le faire évoluer, si ce qui se faisait hier est toujours aujourd'hui la bonne chose. Et là, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant parce que c'est toute sa réflexion sur la vérité qu'il photographie, sur la vérité de l'image et comment il doit commencer à vivre et sentir ce qu'il fait au lieu d'essayer de trouver ce qu'il a en photographie. Autrement dit, c'est d'essayer de sentir son environnement au lieu de créer l'environnement qu'il a besoin. Et j'ai trouvé qu'il y avait une belle mise en abîme là, dans l'histoire et dans comment raconter une histoire en bande dessinée, comment raconter une histoire en photographie, comment raconter une histoire journalistique, et puis comment, à quelque part, quand on essaie simplement de raconter, quand on a je veux dire, pas prétention, mais qu'on a le désir de raconter une histoire et que notre objectif, c'est de raconter une histoire et de créer les dessins ou de créer l'environnement pour raconter notre histoire, comment l'énormité du faux est immense. Et c'est là que je me suis dit, mais j'arrête pas de lire du faux. J'arrête pas de lire. Je passe mon temps à lire des bandes dessinées où on m'impose, et là, c'est spécial que je m'en aille là-dedans parce que c'est tout à fait le contraire d'un discours que j'ai toujours eu. Et là, j'ai commencé à réfléchir sur la BD et je me suis dit, la BD est encore un art qui là, j'attends les tomates, mais qui reste un art qui a encore beaucoup d'hybride. C'est encore beaucoup du récit. Et c'est du récit raconté par une image, par un dessin. Souvent, on va y aller avec le dessin, l'approche esthétique, l'approche du trait va nous charmer ou pas nous charmer, ce qui fait qu'on va aller vers une lecture ou on n'ira pas vers une autre. Fait que déjà en partant, je me disais, on passe probablement à côté de choses extraordinaires. Je passe probablement à côté de choses extraordinaires parce que je me laisse influencer par l'approche esthétique. Il y a quelque chose dans lequel je n'embarque pas, je ne colle pas, donc je ne lirai pas.
Mais en fait,
Et
le
dès que
langage esthétique qui est inhérent à la BD est un aspect, au même titre, j'imagine que l'aspect textuel va te rejoindre ou non. Dans le fond, c'est comme on ne peut pas faire abstraction des deux aspects constitutifs du médium,
Absolument,
j'imagine.
absolument. Et là, j'ai l'impression, et là, je me fâche. Je me fâche avec moi-même, je me dis, je passe à côté d'un paquet de trucs. Probablement que je passe à côté d'un paquet de trucs. Mais en même temps, tu sais, je me dis, est-ce qu'un amateur de cinéma est obligé de voir tous les films qui sortent en salle ou tous les films qui sont disponibles? Je pense que non. Je pense que c'est impossible. Et là, je me suis dit, pourquoi l'amateur de BD, lui, on dirait qu'il faut qu'il passe à travers tout? Pourquoi? Parce que pourquoi la BD est ce médium-là qui fait que quand on est un amateur de bande dessinée, on est un amateur de bande dessinée. Donc, on est amateur de la boîte. On n'est pas amateur de ce qu'il y a dedans. On n'est pas amateur d'un genre de récit ou d'une. Ou, parce que si j'étais amateur de science-fiction, je pourrais lire autant de la bande dessinée qu'aller au cinéma de science-fiction que de lire un livre de science-fiction. Et là, je trouve que j'aurais un univers plus complet et plus culturellement plus large et plus intéressant. Mais non, moi, l'imbécile heureux que je suis amateur de bande dessinée et je m'oblige, ou presque, à lire du petit Mickey jusqu'au truc expérimental que parfois peut être un essai complètement illisible. J'irai pas voir un film complètement débridé, incapable de l'écouter, qui n'en vaut pas l'intérêt, mais là, je vais le faire. Et c'est là que je me suis dit, wow, stop, il y a un truc qui marche pas. Il y a un truc qui marche pas dans il y a un truc qui marche pas dans la démarche BD, là. Dans ma démarche BD. Moi, je vais le prendre personnel, Raymond, mais je le sais, c'est assez particulier comme moi, BD. Bon, ça a été un été dans ma tête, je dirais. Mais cette BD-là, là, Jour de sable, c'est, d'après moi, c'est une des BD de l'année. C'est une œuvre majeure. Il y a une écriture qui est extraordinaire. Il y a une réflexion qui, moi, m'a touché. Il y a un dessin qui est aussi remarquable. Donc, elle a tout ce qu'elle a besoin pour que je sois amateur de cette BD-là. Mais là, je parle de cette BD-là parce que je lis de la BD, parce que ça s'appelle BD, parce que c'est en librairie, je le prends, je le lis, et c'est là que je tombe dans ma ridicule consommation de la loi de la série, là. Et là, je tombe sur Le Convoyeur, Le Convoyeur tome 2. Et là, je me dis, ah, j'ai aimé ça, Le Convoyeur tome 1. Je vais aimer ça, Le Convoyeur tome 2. Mais là, le problème qu'a Le Convoyeur, c'est que j'ai lu Jour de sable. Et là, j'embarque dans Le Convoyeur et là, je suis incapable. Incapable de me dire, je lis une BD. C'est-à-dire que de me mettre dans la peau du petit bonhomme que j'étais assis à l'arrière de la voiture de mon père qui ne voulait pas aller faire du ski alpin et qui préférait lire un pif gadget au lieu d'aller dehors à me faire geler à moins 30. Et là, c'était un moment d'isolation, de détente et juste de divertissement et que j'aimais. Et là, le convoyeur devrait faire ça. Mais là, j'embarque dans Le Convoyeur et là, je suis pas capable. Je suis pas capable parce que là, je me dis, pourquoi je lis ça? pourquoi je prends, ça, c'est pas long, c'est une heure et demie, mais pourquoi je prends une heure et demie à lire ça? Quand je suis en train de lire le livre Le fils de Meyer, qui est sur l'histoire du Texas aux États-Unis, où, dans lequel j'attends le prochain chapitre, puis que j'aurais pu lire un chapitre de plus en une heure au lieu d'aller lire Le Convoyeur, que j'haïs pas, là. Mais là, je me suis senti comme envahi de la loi de cette série-là, de me dire, bon, j'ai lu le premier, je vais lire le deuxième, et là, c'est un beau travail, c'est bien fait, c'est très efficace, et maintenant, il faut que je trouve les arguments, le côté positif, et il faut que je trouve qu'est-ce que je vais dire de cette BD-là à l'émission de radio avec Raymond, quand dans le fond, il n'y a rien d'autre à dire que c'est un excellent divertissement, c'est bon. Ceux qui aiment le genre, lisez-le. Ceux qui n'aiment pas ça, lisez-le pas. Et c'est là que je me suis dit, oh, hey, je suis rendu où, moi, là? Ensuite, je lis, en passant, c'est pas mauvais, hein, Le Convoyeur, là, c'est juste que là, je suis en une envolée de je ne sais pas trop quoi ces temps-ci. Ensuite, j'embarque encore une fois dans La Loi de la série et je m'en vais avec... Océan Noir, de la dernière aventure de Corto Maltese par Bastien Vivès et Martin Kennen. Là, j'embarque là-dedans et là, je me dis, bon, là, c'est un peu comme retourner dans un univers pas d'enfance, mais de jeunesse, c'est-à-dire, c'est un peu mon adolescence, le jeune adulte, Corto Maltese, l'aventure, les amours, le pirate et compagnie. Et là, j'embarque encore une fois dans cette BD-là avec le même sentiment bizarre que je suis en train d'essayer tout simplement de revenir en arrière et de colmater un souvenir et d'essayer de vivre quelque chose que j'ai vécu. J'embarque moyen dans le dessin de Sébastien Vivès dans ce cas-là, mais c'est quelqu'un dont j'aime beaucoup le dessin. Et là, je commence à me poser la question, est-ce que Sébastien Vivès a volé un peu l'âme à Corto Maltese? Est-ce qu'il est allé plus loin chez Corto Maltese? Est-ce que j'ai aimé ça ou est-ce que j'ai pas aimé ça? Fait que là, je suis pas capable d'avoir un sentiment réel en lisant cette bande dessinée-là. Autrement qu'un sentiment intellectuel de réfléchir d'où vient cette BD-là, qui l'a fait, dans quel contexte, qu'est-ce qu'il a repris, pourquoi il l'a repris, est-ce que c'est un truc commercial, est-ce que c'est pas un truc commercial, est-ce que j'en tire un plaisir ou j'en tire pas un plaisir. Je lis cette BD-là, à fin de compte, par obligation de la lire, parce qu'elle existe. Mais là, j'étais complètement découragé, vraiment.
Comme si tu avais perdu un peu ta motivation, tu sais, dans le fond, au bout du compte, tu plonges dans un médium, parce que c'est le médium qu'on aime au départ, parce que nous, c'est le médium qui nous a appelés, mais le médium en tant que tel, parce qu'effectivement, le cas d'espèce que tu donnais tantôt, où on a l'idée qu'il y a quelqu'un qui aime le genre de science-fiction ou le genre d'horreur, mais qui va avoir un intérêt à des propositions qui vont être dans l'apanage d'un genre, peu importe le médium. Mais après ça, il y a des gens qui aiment la poésie, il y a des gens qui aiment le roman, il y a des gens qui aiment le cinéma, puis qui vont avoir un champ d'exploration très, très large, mais à l'intérieur d'un médium précis. Je pense que c'est différents modes d'exploration. T'sais, moi, je le vis un peu justement dans la réflexion de pouvoir apprécier autant justement l'exploration, l'expérimentation qu'à l'intérieur du médium. Je vais être curieux de voir qu'est-ce qu'on en fait pour une variété de public, pour une variété d'approches. C'est une curiosité que j'ai déjà eue pour le cinéma. Mais des fois, on finit par s'essouffler aussi d'un médium. Donc, l'enjeu, c'est des fois aussi de voir comment on peut combattre, entre guillemets, cet essoufflement ou laisser cet essoufflement nous guider. Moi, mon essoufflement cinématographique et théâtral m'a amené tranquillement ou ramené vers la bande dessinée qui est devenue un peu mon canal de recherche narrative, par exemple, au fil des 10 dernières années. Mais de temps en temps, finalement, on se rend compte qu'à force d'en lire, finalement, il y a un essoufflement qui se crée parce qu'on n'a plus la même relation avec l'objet parce qu'on en a tellement lu et parce qu'on en lit tellement. Donc, qu'on se retrouve des fois dans des passages comme ça, des passages un peu avides qui vont soit nous guider vers d'autres sous-genres, vers d'autres auteurs ou vers d'autres médiums, tout simplement, ou d'autres modes d'exploration.
Cette réflexion-là est très intéressante. Puis c'est sûr que, ça fait quand même une quarantaine d'années, là, même plus que je lis de la bande dessinée, et que je m'y intéresse, et que je m'y intéresse aussi au niveau narratif et au niveau formel, au niveau de mes études. J'ai étudié la bande dessinée, qu'est-ce qu'on trouve dans la bande dessinée, tout ça. Et je trouve, à quelque part, que depuis quelques années, quand même, j'aurais le goût de découvrir des choses qui sont pas révolutionnaires, mais qui vont un petit peu de l'avant, qui sont intéressantes au niveau, qui sont intéressantes au niveau de la forme, qui sont intéressantes au niveau de la structure. Je trouve que la structure bande dessinée ne bouge pas beaucoup et il y a quelque chose qui fait qu'on est toujours un peu dans le même côté formel. Ce qui fait que quand arrive une bande dessinée comme les monstres, là, on va jusqu'à se poser la question, est-ce que c'est oui ou non une bande dessinée, parce qu'il y a un côté formel qui est un petit peu plus éclaté. À quelque part, on crée au génie, à d'autre part, on a de la misère à adhérer. Fait que je trouve ça, moi, je la trouve intéressante, cette réflexion-là, parce que je trouve que, et la raison pour laquelle j'ai fait cette espèce de petite réaction-là, c'est que en même temps, c'est pour dire comment je pense aiguiller et orienter mon moi en BD dans la prochaine année. C'est-à-dire que depuis quelque temps, je m'attaque beaucoup aux nouveautés, à essayer de trouver des trucs, on pige un petit peu partout en essayant d'aiguiller le lecteur à une bonne ou une mauvaise lecture. Et je pense que c'est un rôle et un devoir qu'on a quand on discute ensemble, d'orienter vers la lecture. Donc, je vais me concentrer, je veux me concentrer sur deux choses, c'est-à-dire les grands classiques qui ont fait que j'ai aimé la BD et de voir leur suite. Un peu comme Cortot, peut-être, mais on s'empêche de parler du dernier Tif Tondu, on s'empêche de parler du dernier Ricochet, on a de la difficulté à parler du dernier Astérix parce qu'on dit que tout le monde va en parler. On va parler du Lucky Luke parce qu'il est refait par Mathieu Bonhomme, mais on va oublier le jeune Lucky Luke qui est à côté. Donc, je vais me donner un devoir de ramener à quelque part dans l'émission ces bandes dessinées-là, qui ne sont pas des bandes dessinées dites d'auteurs ou de grands changements
qui l'ont déjà été, mais qu'effectivement, là, on est plus dans une maintenance, mais qui peut parfois nous surprendre, comme tu dis, dans le fond, ça me rappelle les discussions qu'on a déjà eues, même dans le passé, sur ce qui fait, dans le fond, un bon ajout dans une série, dans le fond, puis je pense que c'était l'exemple qu'on avait pris à l'époque, et là, je retombe dans mes archives intellectuelles, mais je pense que c'est à l'époque où tu étais venu parler de Lucky Luke and Pinkerton.
Ouais.
Qu'on avait jasé justement de l'actualisation puis de séries comme Spirou puis comme Lucky Luke qui réussissent à intégrer les thématiques actuelles et à continuer de faire évoluer, dans le fond, progresser leur série au-delà de simplement un devoir de mémoire. Et qu'en parallèle, ben, dans le fond, je pense que c'était avec le premier des Astérix, des relectures d'Astérix, où finalement, on faisait beaucoup de clins d'œil, de jeux de mots à Twitter ou aux nouveaux médias, etc., mais que finalement, il n'y avait pas grand-chose d'autre à part ces clins d'œil-là. Donc, on n'avait pas été apte à aller dans la substance, et donc dans une actualisation, entre guillemets, dans le contenu. Donc, on faisait plus des artifices, d'une certaine façon. De voir un peu comment notre relation, finalement, avec ces séries évolue dans le temps, face à leur non-évolution, ou au contraire, face à leur évolution, ou peut-être avec un tome, avec l'exemple, par exemple, de Blake et Mortimer, les derniers sont excellents. Mais il y a eu un passage à vide aussi pour ces remakes-là, où on était plus dans l'intendance, où on reproduisait quelque chose qui avait existé, plutôt que de se donner le droit de la développer, de l'enrichir, de poursuivre.
Absolument. Puis c'est que je me rends compte aussi, à quelque part, que la BD, il y a plusieurs genres en BD, comme il y a plusieurs genres en n'importe quel au théâtre, au cinéma et tout ça. Et ce qui fait que depuis plusieurs années, on dirait qu'on boude, entre guillemets, la BD de 48 pages. Là. Mais moi, je pense que je vais revenir, et je veux revenir à la BD de 48 pages. Cette BD-là qu'on boude puis qu'on oublie, puis de voir s'il y a encore des choses qui sont dignes d'intérêt et qui nous donne le goût de revenir en arrière et d'aller relire la série. Il va sortir un prochain 13. C'est quoi? C'est-tu bon? C'est-tu pas bon? Est-ce qu'on a le goût de revenir en arrière? C'était quoi les
produits? Où est-ce que la série en est-elle?
Où est-ce qu'on s'en va? Fait que je veux m'en aller un peu vers ça sans mettre à côté De côté, les grands coups de cœur comme Jour de sable, qui sont vraiment des BD solides, avec une démarche narrative, avec une démarche de dessin, avec quelque chose qui est extrêmement intéressant. Et l'autre chose que j'aimerais essayer de voir, et là c'est peut-être en discutant ensemble, c'est d'essayer de voir où s'en va-t-elle cette BD-là, qu'est-ce qu'il y a de nouveau. On voit avec les séries télé sur Netflix, le cinéma, on essaie des genres narratifs, là, on s'éclate un peu plus, l'augmentation des flashbacks, on a de moins en moins de poignées de porte là, que j'appelle, là, c'est-à-dire les changements de lieu et tout ça. La BD, je la trouve encore pas mal conventionnelle. Je veux dire, quand la plupart des choses que je lis sont assez standards. Et puis j'aimerais ça qu'on essaie de trouver quelles sont les choses remarquables. Je pense un peu, j'oublie le titre, là, mais la série Moyen-Âge, là, sur le Moyen-Âge, avec les bulles, avec des grands phylactères, avec des grands
bandes.
L'âge d'or, qui était extraordinaire au niveau
merci. Puis visuellement, c'était un délice à ouvrir. Et de temps en temps, effectivement, tu vois apparaître des objets comme ça qui deviennent, dans le fond, juste le médium ou l'approche visuelle transcende même complètement le récit. Puis en plus, le récit est bon, mais je veux dire, le visuel la rend exceptionnelle.
Oui, cette BD-là, tu la relis et tu ne la relis pas de la même façon. Parce que il y a une adaptation à faire au niveau de la lecture de cette bande dessinée-là parce qu'elle crée des sentiments. Le dessin crée des sentiments. Tu as l'impression de, des fois, quand les personnages passent d'une case à l'autre ou sont multipliés dans la même case, dans une grande case, c'est un effet de ralenti, c'est un effet d'accéléré. Il y a une complexité au niveau de la temporalité qui déstabilise un peu parce que personne ne va là. C'est personne, voilà, il reprend le code, il refait le code. Et quand tu relis cette BD-là pour essayer de comprendre qu'est-ce que tu n'as pas compris ou parce que tu l'as trouvé belle et que tu n'as pas l'impression que tu l'as assez savourée, et ça, c'est une autre force d'une bande dessinée comme ça, et là, tu la relis, puis là, tu te dis, OK, wow, lui est ailleurs, lui a fait quelque chose, et ça, c'est très, 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 très intéressant.
Oui, puis on revient en fait aux expérimentations dans le cadre dont tu parlais, dans le fond, c'est que l'expérimentation peut se faire dans une BD qui, hors de cette expérimentation-là, aurait eu un récit qui est plus classique et les récits vont se distinguer à cause ou grâce ou avec la part de cette expérimentation-là. On parle de l'âge d'or, j'aurais envie de faire un clin d'œil aussi à Julie Rochelot, pourquoi pas, qui, avec le dessin et avec une approche visuelle très, très propre à elle, a réussi à dépasser un peu le récit comme tel, à amener la BD ailleurs sans nécessairement réinventer le médium. Mais simplement avec une direction artistique qui est forte et qui s'éloigne un peu de ce à quoi on est habitué dans le format album ou dans une approche plus, entre guillemets, classique, la bande dessinée.
Je pense que oui, puis il faut absolument explorer. Il faut absolument explorer ça parce que je trouve que c'est la richesse de la BD. Ce sont des choses qu'on voit moins, qu'on connaît moins. Toi, tu lis beaucoup de BD. On est une gang qui lit beaucoup de BD. On parle beaucoup de BD. On en parle beaucoup avec notre côté fanatique entre guillemets. On devient vite fan de BD. Et c'est un peu ce qui cet été m'a dérangé parce que cet été j'ai embarqué dans des romans que j'ai trouvé extraordinaires au niveau des sentiments que ça amenait, au niveau de comment ça faisait fonctionner mon imagination, comment je percevais certaines odeurs qui étaient décrites ou comment je m'imaginais certains personnages. Et là, quand tu tombes dans une BD, tu as l'impression que tu tombes un peu dans un repas préparé, stouffer, où tu as juste à le mettre au micro-ondes puis que tout est déjà, entre guillemets, réchauffé ou passé parce que le bonhomme, il y a la bête qu'il a. Bon, il reste des sons à s'imaginer puis tout ça. Mais puis on dirait que il y a eu quelque chose qui, comme tu dis, peut-être que je me suis lassé de ce genre narratif pendant un bout de temps. Et c'est parfait de mettre une certaine région de son cerveau, entre guillemets, jachère pour aller voir autre chose. Mais ça m'a donné le goût de revenir, comme je te disais, aux grands classiques qui ont habité mon enfance et de voir qu'est-ce qu'il y en a que de la BD conventionnelle. de 48 pages qu'on oublie parce qu'on la snob. C'est ça qui est encore le petit art, le roman de gare, si on veut. On snob cette BD-là et on va faire d'autres choses parce que c'est différent. Parfois, peut-être des chefs-d'œuvre qui ne méritent peut-être pas d'être non plus comme étant un chef-d'œuvre. Donc, je vais m'amuser là-dedans avec mon été en pas BD.
Alors, donc, on vient de définir ton terrain de jeu, je pense, dans ton intervention de ce mois-ci, Stéphane. Et bien, évidemment, on va entamer ces explorations-là et cette réappropriation peut-être, ou ce regard, ou bref, on va te suivre dans ces démarches et en discuter aussi au fil des mois. Alors, bien, Stéphane Gravel, on te souhaite un bon mois en BD.
Et merci à tout le monde aussi.
On a quelques instants pour parler bande dessinée, peut-être rapidement deux albums là, que j'ai lus cette semaine et dont j'avais envie de vous parler. Le premier, un beau coup de cœur en fait qui m'est arrivé. On m'avait préparé un peu le terrain en me disant « Mais regarde Raymond, là, cet album-là risque d'être fort intéressant ». Alors j'avais des attentes et mes attentes, ben, elles ont été répondues favorablement. Donc, c'est le dernier livre d'Aude Mermilliot qui avait offert, entre autres, là, il fallait que je vous le dise, et qui, après s'être intéressé là, justement à l'avortement, dans le fond, dans une autobiographie qui était ma foi fort, fort touchante, eh bien là, elle s'intéresse donc à un livre de Martin Winkler qui s'intitule « Le cœur des femmes » et elle nous en offre, à travers le prisme de sa sensibilité, ben, une adaptation bande dessinée. Donc, qu'est-ce que c'est le cœur des femmes? Ben, c'est un parcours personnel mis en relation avec un autre parcours personnel, donc l'un qui est en construction, qui va se développer, l'autre qui a été développé et dont on va comprendre justement la construction. Donc, c'est un parcours personnel, mais c'est un parcours aussi médical, puisque les deux personnes que l'on va suivre, l'une est donc une résidente en médecine, l'autre est un docteur, et les deux ben, sont dans le champ de la gynécologie obstétrique. Donc, la première, Jean Atwood, va faire un stage donc, chez le docteur Franz Karma. Lui est un docteur qui, au fil des années, au fil de la pratique, a beaucoup commencé à remettre en question certaines approches, certaines manières par lesquelles on traite le corps des femmes dans un contexte de gynécologie. Donc, de quelle manière on a une relation avec les parties génitales, avec la naissance, avec la contraception? De quelle manière on accompagne, dans le fond, les femmes dans ce traitement-là? De quelle manière on est en mesure de vraiment faire un espace de confiance, de développer une relation avec les patientes qui va créer justement un contexte de confiance qui va permettre de bien intervenir, de bien développer le traitement, de bien cibler les besoins des patientes. Et Jean arrive un peu dans ce service-là avec beaucoup d'a priori plus négatifs par rapport justement à l'approche du docteur Karma, dans la mesure où elle a été formée au livre, aux faits, aux données probantes, à l'élément peut-être un peu plus clinique classique et qui, au départ, réagit très négativement, si on peut dire, par une approche qu'elle juge peut-être un peu moins performante de la part du docteur Karma. Mais évidemment, peut-être un peu, puisque c'est un peu à propos du livre, mais dans le fond, on voit, dans le fond, cette perception-là évoluer. On voit cette compréhension-là de la pratique évoluer également. Et on la voit peu à peu, justement, en venir à endosser ce discours-là, à se l'approprier et à, elle aussi, dans le fond, préconiser ce changement de perspective dans les soins médicaux gynécologiques. Et tout ça, donc, sous-tendu par des histoires très personnelles, donc, entre autres, en lien avec le corps de Jean, qui, elle, est intersexe, et donc la relation qu'elle a avec son corps, avec la perception que son corps lui amène sur elle-même et le reste. Je ne rentrerai pas trop dans le détail de ça, puisqu'il y a une évolution psychologique qui vient éclairer peut-être certains éléments de l'évolution médicale, mais également qui vient éclairer et enrichir donc la relation qu'entretient Jean avec le docteur Karma, donc qui va se construire également et qui va déboucher sur des moments quand même très, très touchants. Alors, donc, c'est l'a priori côté histoire. Et je pense que vous comprenez par mon ton que j'ai été vraiment séduit par cette histoire, par l'univers dans lequel on nous invite, par les questions importantes qu'on amène à travers cet ouvrage également, et dans la structure aussi qui nous permet vraiment d'explorer à la fois justement l'angle médical et à la fois l'angle personnel, avec également des pages, des pleines pages de textes qui nous amènent, donc textes portraits, là, qui nous amènent vraiment à explorer la psyché, la dynamique, la réalité d'une patiente qui va être traitée, qu'on a rencontrée, donc qui viennent aussi nous amener un peu plus loin dans la réflexion. Donc, il y a vraiment une belle structure qu'on met de l'avant à l'intérieur de tout ça, avec des questionnements importants, que je trouve importants de mon côté. J'imagine que d'autant les lectrices et des lecteurs intéressés par les enjeux de pratique médicale devraient être intéressés aussi, et ces genres de questionnements qui pourraient être menés quand même plus largement. On parle quand même de quelque chose d'assez fondamental au bout du compte, là, sur la manière dont on envisage un peu tout ça. Bref, il y a ces éléments-là qui sont là. Et en parallèle, à l'intérieur de cet univers-là, bien, il y a des personnages qui sont riches, qui sont vivants, qui sont tridimensionnels, des bons dialogues, une évolution qui est cohérente aussi au fil de l'album, avec un trait qui est clair, qui est précis, qui est expressif. Donc vraiment, pour moi, là, c'est une bonne BD qui met le doigt sur des bons questionnements et qui mérite largement d'être lue. Si vous la croisez en librairie, eh bien, feuilletez-la, jetez-y un coup d'œil, voyez ce qu'il en retourne, mais sachez que je vous recommande de mon côté justement d'y jeter un petit coup d'œil pour ce que ça vaut, évidemment. Alors, c'est Le cœur des femmes, c'est du côté du Lombard, donc c'est d'Aude Mermilliot, c'est adapté d'un roman de Martin Winkler, je le répète, donc c'est Le cœur des femmes. Et peut-être autre petit clin d'œil, je dis petit clin d'œil parce que je pense que j'avais parlé largement et activement du premier tome de cette série, donc une série développée par Stéphane Bedbeder et JF, donc c'est Créatures, et le tome 2 mais, qui est arrivé tout récemment sur les étaux des libraires. Alors, je rappelle peut-être un peu le contexte globalement, là, on a ici une série à tendance un brin horrifique. Évidemment, ce n'est pas le genre de série qui va faire des cauchemars ni rien, mais c'est une série à tendance horrifique, si on peut dire, pour un public jeunesse. Et de mon côté, ça m'avait séduit parce qu'effectivement, c'est un type, un genre, un a priori qu'on ne prend pas généralement pour un public un peu plus jeune. Et Jeff et Stéphane Bedbeder ont réussi vraiment à trouver un bel équilibre dans les thématiques, dans les éléments qu'ils amènent, tout en gardant une belle lisibilité pour leur public de départ. Et justement, en offrant une introduction peut-être à certains univers horrifiques, mais en respectant aussi des codes du roman d'aventure et d'autres, en jouant un peu avec différentes approches, mais aussi simplement en offrant quelque chose qui est agréable à découvrir, qui est agréable à se plonger dedans et dans lequel, je répète, qu'il ne fera pas faire de cauchemar non plus, donc il ne faut pas partir en peur là-dessus. Peut-être le contexte, dans le fond, pour ceux qui n'ont pas croisé le premier tome, donc on se retrouve dans un New York post-apocalyptique, il y a une espèce de monstre, une créature quelconque qui s'est approprié, dans le fond, l'hyperespace de cet endroit-là, et tranquillement, ça a transformé tous les adultes en espèces de zombies possédés, si on peut dire, donc qui restent eux-mêmes, mais qui n'ont plus le contrôle, si on peut dire, sur eux-mêmes. Et donc, dans tout ça, c'est les enfants qui ont survécu, entre guillemets, avec tout leur sens, toute leur capacité, et qui doivent désormais s'organiser pour manger, pour survivre, et plus si affinité, puisque, évidemment, il y a des kidnappings, donc des adultes et d'autres créatures qui viennent chercher certains enfants, entre autres des enfants qui auraient des pouvoirs psychiques, pour les amener à quelque part à New York vers justement cette créature mère. Et donc, dans Créature, le livre, la BD, on va suivre donc un groupe de jeunes qui vont tenter de se dépêtrer et qui vont mener un peu cette action-là. Entre autres, Vanille qui a vu son petit frère dans le premier tome se faire kidnapper avec ce groupe d'enfants là, qui ont des pouvoirs particuliers. Et elle va tenter évidemment d'aller le récupérer auprès de cette créature. En parallèle, un autre sous-groupe de cette bande d'enfants qui va tenter de comprendre ce qui est en train de se passer, d'essayer d'agir sur ce qui est en train de se passer. Donc, bref, on a plein d'éléments qui se passent à gauche et à droite qui, pour un public plus vieux, pourraient rappeler peut-être aussi un petit côté Stranger Things, un petit côté Stephen King, pourquoi pas également. Et vraiment, tout ça, ça se lit agréablement. Je le souligne à grands traits. Le premier tome était fort sympathique, bien mené, bien rythmé. Dans le deuxième, évidemment, là, on commence quand même à placer, à expliquer peut-être un peu certains éléments. Donc, l'action se ralentit peut-être un peu, mais il y a des éléments qu'on doit mettre en place en route vers le troisième. Et donc, ça prépare bien le terrain, ça offre une belle suite parce que on commence à nous donner des indications à enrichir, à bonifier, à détailler cet univers-là. On sent que la construction se poursuit en route vers le troisième album qui s'appellera « Dans les entrailles de Yogg ». Alors, tout ça, donc, c'est bien mené. Je le disais, les dialogues aussi sont très solides. On sent différentes personnalités. Il y a une belle dynamique qui ressort de tout ça. Au dessin, c'est très bien porté par JF, là, qui vraiment, on sent qui a un réel plaisir à développer cet univers crépusculaire, oppressant, tout en tonalité de vert, donc pour développer un peu l'ambiance de ce récit, un peu science-fiction horrifique. Donc bref, le métissage de tout ça fonctionne. Le premier tome fonctionnait bien et je vous indique que pour moi, tout le moins, le deuxième tome fonctionne également tout aussi bien. Alors, c'est de Stéphane Bedbédard et de JF, c'est du côté de chez Dargo, je crois. Dupuis, pardon, c'est du côté de Dupuis. Et voilà, Créature tome 2, donc sous-titré La Grande Nuit, qui vient d'arriver également. Et voilà ce qui conclut cette édition de La Vie en BD. C'était Raymond Poirier au micro. Toujours un plaisir d'être avec vous et on vous incite à aller faire un tour sur lavieenbd.com pour mettre la main sur d'autres émissions, informations, chroniques, articles et plus.